Chapitre 19. Histoire et prophétie. Qui a fait entendre cela depuis les origines? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. La Bible est le livre d'histoire le plus ancien et le plus complet que les hommes possèdent. Elle jaillit de la source de vérité éternelle et, à travers les âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Elle éclaire le passé lointain, que l'homme cherche en vain à pénétrer. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la terre et déployé les cieux. C'est là seulement que nous trouvons l'explication véridique de l'origine des nations. Là seulement que nous pouvons trouver une histoire de notre race pure de tout orgueil, de tout préjugé. Dans les annales de l'histoire moderne, la croissance des nations, la grandeur et la décadence des empires, semblent dépendre de la volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition, de leur caprice. Mais dans la parole de Dieu, leur rideau est tiré, et nous pouvons voir, au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des hommes, la puissance du Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment ses desseins. La Bible nous révèle la vraie philosophie de l'histoire. Avec des mots d'une beauté et d'une délicatesse incomparables, l'apôtre Paul fait connaître aux sages athéniens les intentions divines concernant les races et les peuples. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habite sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu, pour le trouver si possible, en tâtonnant. Dieu déclare que quiconque le veut peut être conduit par le lien de l'Alliance. Lors de la création, il souhaitait que la terre soit habitée d'êtres dont l'existence serait une bénédiction pour eux-mêmes, pour les autres, et un honneur pour leur Créateur. Tous ceux qui le veulent peuvent participer à la réalisation de ce projet. 2. Il est écrit : Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu a révélé dans sa loi les principes qui sous-tendent toute véritable prospérité, tant pour les peuples que pour les individus. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence, déclare Moïse aux Israélites à propos de la loi de Dieu. Ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie. Les bénédictions accordées à Israël sont aussi bien accordées à toutes les nations, à tous les individus sous les vastes cieux. Le pouvoir exercé sur terre par tout chef d'État lui est confié par Dieu, de l'usage qu'il en fait dépend sa réussite. À chacun, le vigilant divin dit : Je t'ai pourvu d'une ceinture, sans que tu me connaisses. Pour chacun, les mots autrefois adressés à Nebuchadnezzar sont une leçon de vie. Mets un terme à tes péchés par la justice, et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. Comprendre cela, comprendre que la justice élève une nation, que c'est par la justice que le trône s'affermit, qu'il est soutenu par la bienveillance. Reconnaître que ces principes sont à l'œuvre dans les manifestations de la puissance de celui qui renverse les rois et qui établit les rois, c'est comprendre la philosophie de l'histoire. Seule la parole de Dieu met tout cela bien en évidence. Elle ne montre que la force des nations, des individus, ne réside pas dans des occasions, des facilités qui semblent les rendre invincibles, ni dans leur valeur tant vantée. Elle se mesure à la fidélité avec laquelle ils accomplissent les desseins divins. Un exemple nous en est donné dans l'histoire de l'ancienne Babylone. Au roi Nebuchadnezzar, l'objectif que doit se fixer un gouvernement fut présenté sous la forme d'un grand arbre. Sa cime atteignait le ciel, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel. C'est là le gouvernement selon Dieu, qui protège et forme la nation. Dieu exalte à Babylone pour qu'elle puisse atteindre ce but. Cette nation prospéra et parvint à une richesse, une puissance qui n'ont jamais été égalées depuis. Elle a été à juste titre symbolisée dans les Écritures par la tête d'or, mais le roi omit de reconnaître le pouvoir qu'il avait élevé. Nebuchadnezzar, dans l'orgueil de son cœur, dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour l'honneur de ma gloire ? Au lieu de protéger les hommes, Babylone se mit à les écraser de son arrogante cruauté. Les paroles inspirées qui dépeignent la férocité et la rapacité des chefs d'Israël nous révèlent les raisons de la chute de Babylone et de bien d'autres royaumes depuis la fondation du monde. Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Sur le roi de Babylone descendit la parole divine. C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, assieds-toi en silence et va, dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Toi qui demeures près des grands eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, à la mesure de ta cupidité. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu bouleversa. J'en ferai le domaine du hérisson, et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction. Oracle de l'Éternel des armées. Toutes les nations du monde ont eu leur rôle à jouer, et l'occasion de réaliser le plan du vigilant et du saint. La prophétie a annoncé la grandeur et la décadence des grands empires mondiaux. Babylone, les Médés et les Perses, la Grèce, Rome. Pour chacun d'eux, comme pour les nations moins puissantes, l'histoire se répéta. Tous surent une période d'épreuve. Tous échouèrent. Leur gloire passa. Leur puissance s'évanouit. Une autre les remplaça. Tandis que les nations rejetaient les principes de Dieu et couraient à leur propre ruine, il était clair cependant que le dessein divin se réalisait à travers tous leurs mouvements. C'est ce qu'enseigne l'extraordinaire vision accordée au prophète Ézéchiel pendant son exil en Chaldée. Elle lui fut donnée alors qu'il était accablé de souvenirs désolés et de pressentiments inquiétants. La terre de ses pères n'était plus que désolation. Jérusalem était dépeuplée. Le prophète lui-même était étranger, dans un pays où l'ambition et la cruauté régnaient en maître. Ne voyant autour de lui que tyrannie et injustice, il était dans le désarroi, et seul à monter jour et nuit. Mais la vision qu'il reçut lui révéla une puissance bien supérieure aux puissances terrestres. Au bord du fleuve Kébar, je regardais. Et voici qu'il vint du nord, un vent de tempête, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant, sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Des roues, imbriquées les unes dans les autres, étaient mues par quatre êtres vivants. Au-dessus, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir, et l'apparence d'un trône. Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. on voyait aux chérubins une forme de main humaine sous leur aile. La disposition des roues était si compliquée qu'à première vue, tout paraissait être en désordre. En fait, tout fonctionnait parfaitement. Les êtres célestes, soutenus et guidés par la main qu'on voyait sous les ailes des chérubins, poussaient ces roues. Au-dessus d'eux, sur le trône de saphir, se trouvait l'Éternel, et autour du trône, l'arc, emblème de la miséricorde divine. De même que les rouages compliqués étaient dirigés par la main qu'on voyait sous les ailes des chérubins, de même le jeu embrouillé des événements de l'histoire de l'humanité est soumis au contrôle divin. Au milieu des querelles et du tumulte des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins conduit toujours les affaires du monde. L'histoire des nations, qui l'une après l'autre, ont pris place dans le temps et l'espace, témoins inconscients d'une vérité dont elles ne connaissaient pas elles-mêmes le sens, nous parlent. À chaque nation, à chaque homme d'aujourd'hui, Dieu a donné une place précise dans son plan. Les hommes et les nations d'aujourd'hui sont mesurés par celui qui ne se trompe pas. Il décide eux-mêmes de leur destinée. Et Dieu dirige toutes choses pour l'accomplissement de ses desseins. L'histoire que le grand Je suis traça dans sa parole, maillon après maillon dans une chaîne prophétique, de l'éternité du passé à l'éternité du futur, nous apprend à quel endroit nous trouvons dans le défilé des siècles, et ce que nous pouvons attendre du temps à venir. Tout ce que la prophétie a prédit jusqu'à nos jours s'est accompli dans l'histoire, et nous pouvons être sûrs que ce qui doit encore arriver, arrivera en son temps. La ruine finale de tous les royaumes terrestres est clairement annoncée dans la parole, dans la prophétie qui accompagne le jugement de Dieu sur le dernier roi d'Israël. Nous trouvons ce message. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, la couronne sera enlevée. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Dieu dit, une ruine, une ruine, une ruine, c'est ce que j'en ferai. Tout a déjà changé, en attendant la venue de celui à qui appartient le jugement, et à qui je le remettrai. La couronne enlevée à Israël passa à l'empire de Babylone, puis à l'empire des Mèdes et des Perses, ensuite à la Grèce, et à Rome. Ce moment est proche. Aujourd'hui, les signes des temps nous disent que nous sommes au seuil d'événements solennels. Notre monde n'est qu'agitation. À nos yeux s'accomplit la prophétie, dans laquelle le Sauveur parle, de ce qui précédera son retour. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, par endroits, des famines et des tremblements de terre. Notre époque présente un intérêt extrême. Les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance et de responsabilité, les hommes et les femmes de toutes conditions, qui réfléchissent, ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Ils examinent les relations tendues, difficiles, des nations entre elles. Ils observent la violence qui s'empare de la terre, et ils reconnaissent que quelque chose d'immense, de décisif, va se passer, que le monde est au bord d'une crise extraordinaire. En ce moment, les anges retiennent les vents des guerres, pour qu'ils ne soufflent pas, avant que le monde n'ait été averti, qu'il va à sa perte. Mais la tempête se prépare, prête à se déchaîner sur la terre. Et quand Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, éclatera un conflit indescriptible. La Bible seule donne une vision exacte de ces choses. Elle révèle les dernières et terribles scènes de l'histoire de notre monde, ces événements dont nous apercevons déjà l'ombre, et dont la rumeur fait trembler la terre et défaillir de peur les hommes. Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple, il en bouleverse la face, en disperse les habitants. Ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants en portent la culpabilité. L'allégresse des tambourins a cessé, le bruit des amusements a pris fin, l'allégresse de la cithare a cessé. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vidés, les magasins sont en ruine, car le blé est épuisé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de gros bétail sont errants, parce qu'ils n'ont point de pâture. Et même les troupeaux de petits bétail sont punis. La vignette est épuisée, le figuier a desséché, le grenadier, comme le palmier et le poimier, tous les arbres des champs sont secs. La gaieté est tarie, pour les humains. Je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son du corps, la clameur guerrière. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Je regarde la terre, et voici qu'elle est informée vide, vers les cieux, et leur lumière n'est plus. Je regarde les montagnes, et voici qu'elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde. Et voici que l'homme n'est plus, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel. C'est un désert, et toutes ces villes sont abattues devant l'Éternel. Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. Va, mon peuple, entre dans tes chambres. Et ferme tes portes derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Il crie vers les cieux en haut, et vers la terre, pour juger son peuple. Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui juge. Fille de Sion, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant des armées nombreuses se sont rassemblées contre toi. Elle est dans la souillure, dit-elle. Nos yeux se fixent sur Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, oracle de l'Éternel. Puisqu'il t'appelle la bannie, c'est Sion, celle que nul ne recherche, ainsi parle l'Éternel. Voici. Je fais revenir les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel, en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. Il anéantit la mort pour toujours. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Regarde Sion, la cité de nos rencontres. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours sereins, tente qui ne sera plus transportée, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Il jugera les pauvres avec justice, avec droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Alors le dessein de Dieu sera accompli. Les principes de son royaume seront respectés partout dans le monde. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes celui de louange. Les prophètes à qui ont été révélées ces scènes désiraient ardemment, en comprendre le sens. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées, et les anges désirent y plonger le regard. Pour nous qui sommes tout près de leur accomplissement, l'esquisse des choses à venir, que les enfants de Dieu, depuis que nos premiers parents se sont éloignés de l'Éden, ont espéré, attendu, et pour la réalisation desquels ils ont prié, a un intérêt, une importance immense. Aujourd'hui, en cette période qui précède la grande crise finale, comme avant la première destruction du monde, les hommes sont absorbés par la recherche des plaisirs. Absorbés par ce qui est visible et passager, ils ont perdu de vue les choses invisibles et éternelles. Aux richesses éphémères, ils sacrifient les richesses immortelles. Il faut qu'ils lèvent la tête, que leur vision de la vie s'élargisse. Il faut les sortir de leur léthargie, de leur rêve terrestre. Il faut qu'ils apprennent, à travers la grandeur et la décadence des nations, telle que nous l'explique la Sainte Écriture, combien est vaine la gloire terrestre, toute d'apparence. Babylone, puissante, est magnifique, telle que notre monde n'a plus jamais rien contemplé de semblable. Babylone qui semblait si forte et si solide, il ne reste plus rien de toi. Comme l'herbe des champs, tu as passé. Ainsi passe tout ce qui ne se fonde pas sur Dieu. Seul peut subsister ce qui est lié au dessein divin, ce qui exprime le caractère de Dieu. Ces principes sont les seules données et inébranlables de notre monde. Voilà les grandes vérités que tous doivent apprendre, jeunes et vieux. Il nous faut étudier la réalisation du plan de Dieu, à travers l'histoire des nations et la révélation de l'avenir, pour estimer à leur juste valeur, les choses visibles et invisibles, pour comprendre quel est le véritable objectif de la vie, pour donner à chaque chose terrestre sa véritable place et son usage le plus noble, à la lumière de l'éternité. Ainsi, en étudiant ici-bas les principes du royaume de Dieu, en devenant les sujets, les citoyens, nous serons prêts, au retour de Jésus, à entrer avec lui dans ce royaume. Le jour est proche. Il nous faut apprendre, travailler, transformer notre caractère. Pour tout cela, le temps est court. Fils d'homme, voici ce que dit la maison d'Israël. La vision qu'il a n'est que pour des jours lointains, il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai. Oracle du Seigneur, l'Éternel.